Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs du colloque pour avoir accepté mon papier et m'excuser du retard avec lequel je l'ai envoyé. Donc je m'excuse auprès de Daniel Kergoat et de Gabriel Epina. En fait, je vais partir de la difficulté que j'ai eue à écrire ce papier, non pas pour y trouver une excuse, mais pour le fait que je trouve que c'est révélateur en fait, de l'enjeu qu'il y a derrière la question de l'intersectionnalité. Voilà, je m'explique. Lorsque j'ai voulu commencer à réfléchir sur la question, d'un point de vue de la socio-histoire, de l'ethnographie et des statistiques sur un métier de service de luxe, j'ai eu un peu le réflexe scolastique qui consistait à, voilà, un peu comme dans un jeu de Mikado, on va essayer de déplacer les modalités des variables, repérer les points d'intersection, les articulations, et puis voir ce qu'on peut un peu en dire. Et en fait, ça n'a pas du tout marché comme ça. Hein. Je n'arrivais pas à organiser mon propos de cette manière-là. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je tirais un fil et tout venait. En fait, ça faisait une espèce de masse informe où je ne pouvais pas parler du genre sans que la classe soit là. La façon dont la racisation sur ce marché du travail fonctionnait était mouvante. Enfin, voilà. Donc, j'ai opté pour une autre façon de faire qui est certainement critiquable. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, avant de rentrer dans le vif du propos, je vais juste présenter rapidement ce que c'est que le métier de concierge d'hôtel de luxe, parce que c'est une profession un peu méconnue, donc il y a toujours un petit passage obligé où j'expose rapidement en quoi ça consiste. Donc c'est un vieux métier qui existe depuis qu'existent les hôtels de luxe en Europe, hein, depuis la fin des guerres napoléoniennes, lorsque dans l'Europe pacifiée, la grande bourgeoisie et l'aristocratie pouvaient de nouveau entreprendre leur tour et avaient besoin d'être hébergés dans des grands établissements qui reproduisaient la vie de château. Et donc, le concierge d'hôtel, toute proportion gardée, c'est un peu comme le majordome dans une maison privée, mais là, dans un cadre commercial, il va diriger les équipes de voituriers, de bagagistes, de grooms et de chasseurs. Alors, les grooms et les chasseurs, c'est les coursiers de l'hôtel, externes et internes. Voilà, je passe. Et puis, il va être en contact privilégié avec la clientèle. Il va lui fournir tous les services dont elle aura besoin en dehors de l'hôtel. Donc typiquement, c'est le concierge que vous allez voir lorsque vous rentrez dans l'hôtel. Il est derrière son comptoir et vous allez le voir pour lui demander de réserver, enfin de louer un moyen de transport, de réserver un restaurant, d'acheter les billets d'opéra, d'avoir les conseils touristiques, de trouver des services extérieurs comme une babysitter ou un coiffeur ou une fleuriste, etc. Les trois raisons principales pour lesquelles je trouvais que ce métier était intéressant à étudier dans une perspective d'intersectionnalité, c'est que la première, c'est que le poste de travail du concierge le place dans une situation de forte asymétrie par rapport au client. Il y a une forte inégalité statutaire, et là, je trouve que Aurélie Jeantet avait rappelé ce matin qu'il faut toujours avoir en tête qu'il y avait des moyens de résistance, hein, en effet, mais ce qui est premier, elle l'a rappelé elle-même, c'est que voilà, il y a une forte asymétrie souvent dans la relation de service, et là, c'est assez exacerbé dans le cas des concierges. La seconde raison, c'est que leur posture les place de facto au carrefour de quatre loyautés différentes. D'une part, la loyauté envers les clients de l'hôtel, pour lesquels ils doivent réaliser un certain nombre de services. Une loyauté par rapport au directeur de l'hôtel, à la direction et au management. Hein, ce sont souvent des cadres, les concierges, quand ils arrivent en haut de la hiérarchie. Une loyauté par rapport à leurs collègues de travail. Et puis une loyauté, enfin, par rapport aux prestataires de services de luxe auxquels ils font appel. Sachant que, et c'est important de le savoir aussi, il touche une commission en général, un pourcentage de la note qui est payée par le client va dans la poche du concierge qui s'ajoute donc à son salaire. Et puis la troisième raison pour laquelle il me semblait que c'était intéressant de se pencher sur ce métier-là, c'est que il a, dans une perspective d'intersectionnalité, c'est que il a subi historiquement des transformations qui font que le recrutement social du concierge évolue et que voilà, si on réfléchit en termes de variables de sexe, de genre et de sexe, de classe et de race, pardon, voilà, les variables évoluent historiquement et c'est intéressant du coup de se poser la question. De l'intersectionnalité. Très rapidement, par rapport à la méthode, voilà, j'ai mené une enquête qui allie travail sur des archives avec une exploitation qualitative et quantitative, une ethnographie par observation participante et puis un travail statistique, notamment à partir d'un questionnaire que j'ai fait passer auprès de la population actuelle. Et donc, notamment par rapport à la question de l'ethnographie, j'ai un petit peu illustré mon propos qui est cadré aussi, que j'essaie de cadrer statistiquement, mais j'illustre aussi avec des éléments d'ethnographie que j'ai appelés des scènes de genre, pour reprendre le terme en histoire de l'art, des scènes de la vie quotidienne un peu banale. Voilà, scène de genre, c'est un double sens avec aussi la variable de genre qui est souvent présente pour l'analyse de ces interactions au travail. Et à chaque fois, on voit qu'en fait, on retrouve dans ces petites scènes de genre hein, le positionnement au carrefour de ces quatre loyautés qui fait que le travail du concierge peut-être nous en apprendre sur d'autres métiers de service par transposition. Voilà. Et donc la manière dont j'ai organisé le propos pour venir à ça, c'est que je suis parti de la relation de service hein, comme une relation sociale qui est toujours une relation aussi de pouvoir, un rapport de force. Et donc toujours cette tension entre rendre service et être servile, pour reprendre encore une fois les propos d'Aurélie Janté. Et donc j'ai organisé le topo en trois temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, on verra. Tout d'abord je vais montrer en quoi il y a un enjeu de protection d'une masculinité de classe populaire chez les concierges d'hôtel. Ensuite je vais montrer comment ils peuvent tenter de faire face à un travail qui est de plus en plus un travail de care, qui s'informalise. Et puis, si j'ai le temps, j'essaierai de montrer comment, au fil du temps, la racisation de ce recrutement des concierges d'hôtels s'est maintenue au cours du temps. Donc, tout d'abord, la question, c'est de savoir, à partir d'un cadrage statistique, comment on peut dire qu'il y a un enjeu de protection d'une masculinité de classe populaire chez les concierges d'hôtels. Je me base là sur deux sources statistiques principales. La première, c'est les fiches d'adhésion à l'Association professionnelle des concierges, qui a été créée à Paris en 1929 et qui, jusqu'aujourd'hui, a conservé les fiches d'adhésion. Donc, sur plus de 80 ans, on peut, en allant chercher aussi sur les actes de naissance la profession des parents, voir l'évolution du recrutement social de ce métier. Et puis, la deuxième source, c'est le questionnaire que j'ai fait passer auprès de la population. Et voilà, ces matériaux montrent que le premier constat, c'est une forme d'homogénéité en termes d'intersectionnalité hein, entre sexe, classe et race. C'est qu'on a, en fait, ce que Nicky Lefeuvre appelle un bastion masculin. Hein, et on pourrait compléter en disant un bastion d'hommes blancs. Peut-être même, on pourrait dire, visiblement hétérosexuels, en tout cas, qui ne mettent pas en avant leur homosexualité, s'ils sont concernés. Et puis, souvent, issus des classes populaires. Alors, au fil du temps, ensuite, on voit que le groupe se diversifie. Les femmes entrent sur ce marché du travail tardivement et lentement, à partir des années 80. Et puis, le groupe recrute petit à petit dans les classes moyennes et puis les classes supérieures. Mais en tout cas, le modèle de base historique, c'est un recrutement masculin des classes populaires et je dirais même des fractions en déclin des classes populaires. Par exemple, au début du XXe siècle, ça va être beaucoup de fils de domestiques qui vont se retrouver à devenir concierges, ou des ouvriers agricoles avec la crise agricole. Plus tard, ce sera les fils de petits commerçants et d'artisans avec la crise du petit commerce à partir des années 50-60, et puis ensuite, plus tard, dans les années 80, des concierges qui sont issus du milieu ouvrier. Donc l'idée, c'est que là, la masculinité peut pas se comprendre indépendamment d'une origine sociale. Tout se passe comme si le fait d'être dans une relation de service subalterne vis-à-vis des clients pouvait potentiellement mettre en danger un modèle de masculinité de classe populaire avec... du coup, la réaction face à des compétences traditionnellement conçues comme féminines hein, et qui ne cadrent pas tout à fait avec les sphères habituelles du travail des classes populaires, le champ, l'usine, l'atelier. Donc là, on compte sur la discrétion, l'effacement de soi, la retenue, la disponibilité, le soin apporté à l'apparence. Alors là, il y a tout un travail à faire sur la description, sur la disciplinarisation des corps. Je rebondis sur les propos d'Olivia et Julien. Hein. Là aussi, chez les concierges, tout le grooming, c'est-à-dire la manière de discipliner les corps est aussi très importante. Voilà, je passe parce que je voudrais essayer de tenir le temps. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, sur ce panel, c'est qu'on a des professions qui sont assez différentes et que ça fait des rapprochements qui ressuscitent un peu les étonnements qui ont tendance à s'émousser sur le terrain, en fait. Et je trouve que, par exemple, comparer la réaction d'un concierge face à un client en colère, dans le cas de Céline, par exemple, face aux usagers de l'AME, voilà, c'est pas du tout les mêmes résultats qu'on va trouver et les réactions attendues des travailleurs ne sont pas les mêmes. Donc, une des réactions possibles de cette masculinité de classe populaire potentiellement remise en cause, ça va être des formes de virilisation défensive, hein, avec notamment tout ce qui est autour des joutes verbales, de l'humour à connotation sexiste, qu'on retrouve, j'ai l'impression, un petit peu chez les ouvriers qu'a étudié Annalisa, hein, c'est cette manière de recréer une espèce d'entre-soi masculin qui est potentiellement remis en cause. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je voulais essayer d'explorer, c'est l'idée que ce métier typiquement masculin a tendance à évoluer au fil du temps et à, au niveau du contenu des activités qui sont attendues des concierges, le travail évolue de plus en plus vers un travail de care, en fait. Un travail de care qui s'informalise. Alors, je vais juste revenir là-dessus, mais avant ça, on peut regarder le moment où les premières femmes arrivent sur ce marché du travail. La réception au niveau des articles de presse, ça va être de mettre en avant une féminité qui est indissociable d'un marqueur de race, en fait, hein, avec l'idée, par exemple, qu'on a une petite Normande de 27 ans, blonde et rose, avec un joli sourire. Voilà, donc y a toujours ce marqueur de race qui est présent dans la façon de décrire les femmes concierges. Et puis, dans une approche matérialiste, un petit peu comme ce qu'avaient fait Margaret Marouani et Chantal-Nicole Drancourt sur le milieu de l'imprimerie, hein, il y a une instrumentalisation de la part des directions d'hôtels des caractéristiques prétendument naturelles et féminines. Je cite un directeur d'hôtel qui dit « Pour moi, la psychologie féminine est particulièrement adaptée à la fonction de l'accueil. » Donc l'idée, c'est qu'on va commencer à embaucher des femmes pour remplacer les hommes concierges en leur donnant un autre nom qui va être hôtesse, qui permet de les payer moins, et puis de faire du profit de cette manière-là. Donc l'idée, c'est que le concierge doit être la mère, le père, le patron, la nounou et le psy du client, tout ça à la fois. Je cite un autre article de presse, hein, c'est intéressant pour voir un peu l'image dans l'opinion publique de ce type de profession. Et puis, là encore, une réaction de la part des hommes qui exercent cette profession face à la façon dont le contenu du travail est de plus en plus vers le care, c'est d'en faire un care que j'ai appelé un care virtuose, c'est-à-dire un petit peu comme dans le milieu de la cuisine où la cuisine gastronomique dans les grands restaurants va être un monopole confisqué par les hommes et la cuisine quotidienne qui se répète va être plutôt pour les femmes. Ici, c'est un petit peu pareil. Ils vont mettre en avant l'aspect délicat, difficile à réaliser des demandes qu'on leur adresse, et donc mettre en avant une prouesse comme un acte de bravoure, une forme de care virtuose, alors que les femmes, elles, vont plus volontiers, face à l'enquêteur, reconnaître qu'en fait, quand on a de l'argent, rien n'est impossible, à part les lois de la nature et la légalité. Voilà. Ce qu'elles vont mettre en avant, c'est plutôt le fait d'être à l'écoute du client et d'arriver à répondre très finement à ses attentes. Donc là, pour le coup, contrairement au cas de Sabine, il faut vraiment écouter. Là, pour le coup, il faut vraiment écouter les demandes des clients et s'y adapter au plus fin. Ensuite, dans un troisième temps, ce que je voulais évoquer, c'était essayer de voir comment, dans une enquête comme ça sur un groupe professionnel, on peut essayer de saisir les raisons de cette racisation persistante du travail hôtelier. Puisque c'est un constat que de nombreux sociologues ont fait, hein, que, et en tout cas dans le milieu de l'hôtellerie, c'est le cas aussi, entre front office et back office, on a en front office un monopole pour des travailleurs blancs, et en back office, là, on va pouvoir accepter des travailleurs racisés. En fait, c'est intéressant d'avoir en tête les whiteness studies par rapport à la question de la blanchité, puisqu'en fait, on se rend compte qu'au cours du temps, cette blanchité n'a pas une définition stable, elle se modifie petit à petit. On va, par exemple, accepter au sein des concierges de recruter des concierges issus de Chine ou du Japon ou de Russie qui peuvent parler la langue des clients avec l'argument de l'adaptation linguistique aux clients. Mais comme bizarrement, en fait, cet argument de l'adaptation à la langue du client ne fonctionne pas pour les concierges arabophones, hein, qui pourtant seraient vraiment bienvenus pour pouvoir s'adapter à une clientèle issue du Golfe Persique, hein, puisque c'est depuis les années 80 vraiment une clientèle qui est devenue très importante pour les palaces. Non, là, ça ne marche pas. Quitte à ce qu'il y ait des quiproquos avec l'accent en parlant anglais, ou j'ai des anecdotes de concierges qui envoient des médecins dans une salle, dans une chambre, parce que le client réclame « a doctor », et en fait, il voulait un adaptateur pour son téléphone, rien à voir. Donc cet argument ne fonctionne pas toujours. Donc on a une racisation persistante de ce marché du travail. Et dans un entretien avec une DRH, en fait, on se rend compte que l'origine de cette racisation, elle est dans un va-et-vient entre le racisme de la direction et du management et l'excuse de la clientèle, en fait, qui ne supporterait pas éventuellement d'être servie en salle ou au niveau du desk du concierge par une personne racisée. Voilà, donc pour conclure, en fait, il me semblait que la perspective socio-historique sur ce groupe professionnel permettait de voir en quoi les modalités des variables qu'on essaye de faire bouger en parlant d'intersectionnalité, en fait, elles ne sont pas stables, elles évoluent au cours du temps, et elles sont également l'objet de représentations sociales qui vont être elles-mêmes mouvantes. Et donc, pour conclure, en fait, je me reconnaissais bien dans le point de vue qu'avaient proposé Elsa Dorlin et Daniel Kergoat sur la critique en fait du terme d'intersectionnalité, où les connotations un peu géométriques du terme faisaient qu'on risquait de tomber dans la réification en fait, et qu'on passait à côté du fait que voilà, c'est ce qu'on définit comme étant blanc ou non blanc, masculin, féminin ou classe populaire, classe supérieure, voilà, et sujet aussi à évolution historique et à représentation sociale qui évoluait. Pour en donner un exemple, en fait, c'est la figure repoussoire de la concierge, hein, puisqu'on a un mot épicène, hein, qui sert pour le masculin et le féminin de la même façon. Et bien là, on a une figure repoussoire qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais qu'on trouvait beaucoup dans les années 80, lorsque les premières femmes concierges sont arrivées sur le marché du travail. On retrouve sexe, race, classe. C'est l'idée que, voilà, il faut bien dire le concierge et non pas la concierge qui serait une portugaise qui balayerait les escaliers de l'immeuble et qui serait curieuse et méchante. Je cite un article de Libération de 1986 qui dit « Une femme peut parfaitement être un bon concierge et pas seulement si elle est portugaise et un as du balai ». Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie.